regarder et pénètre ces lieux, je risquerai d'apprendre les secrets que je ne dois pas connaître.
Dans Le Secret des Dieux, épisode 118 et seconde partie de l'entretien que j'ai consacré à Barabbas, en compagnie du très sympathique Stéphane Boursier, qui est son guitariste et son fondateur, nous allons entre autres considérations parler scène française et décortiquer chacune des trois sorties de Barabbas. Je vous souhaite donc une excellente écoute, vous êtes dans Le Secret des Dieux. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un groupe qui est également assez important à mes yeux, c'est Cathedral, un groupe anglais. Mmh. Alors, Barabbas, ça fait partie de la compilation Doom or Be Doomed, qui a un hommage français à Cathedral, auquel j'ai participé également avec mon propre groupe.
Tout à fait, oui.
Alors, vous avez fait une reprise francisée de Ride.
Ouais.
Qui se trouve sur The Ethereal Mirror. Alors moi, c'est mon album préféré de Cathedral.
C'est un de ceux que je préfère, avec Carnival Bizarre, ouais, vraiment.
Avec Carnival Bizarre, oui, les premiers, quoi. Alors, mon groupe Monolith a fait la reprise du morceau qui vient juste après Ride, donc c'est Enter the Worms.
Ouais, j'adore celui-là.
Est-ce que, en fait, cette scène française de Doom, avant cette compile, tu la connaissais déjà? Est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce que tu la connais? Et est-ce que, d'une manière générale, tu t'intéresses encore aujourd'hui à ce qui se passe dans la scène française, ou est-ce que tu as un petit peu lâché l'affaire?
Pour être franc, j'ai un peu lâché l'affaire sur tout, en fait, tous les styles. C'est vrai que je m'aperçois, là, de... J'écoute énormément de vieilleries, en fait. Notamment beaucoup de choses que j'ai pas écoutées quand j'étais jeune. Qui sortait à l'époque où j'étais jeune, mais que je n'ai pas pris la peine d'écouter à l'époque. Je m'aperçois que je suis passé à côté de... Donc c'est vrai qu'en termes d'actualité, je suis complètement largué, quoi. Ma fille, parfois, me parle de certains artistes. Bon, j'ai du mal. En plus, j'écoute plus la radio, ça c'est vrai. En fait, j'achète des disques, c'est ça. J'écoute pas la radio, je regarde pas YouTube, des choses comme... Donc je vais simplement, voilà, c'est par le bouche à oreille ou des potes parfois qui me disent tiens, voilà, des choses comme ça, ou je vais chez Gilbert, je vois un disque qui m'intéresse. Mais c'est vrai que ça reste quand même énormément, énormément, énormément de vieilleries. Maintenant, on a quand même une petite vue, c'est via les concerts que l'on fait, les contacts que l'on a, on a quand même une... ça nous permet de partager la scène avec des groupes français de Doom, ou de musique, disons, assimilée, hein, parce qu'aujourd'hui, ce que nous, on appelait le Doom, finalement, pour quelqu'un de 20 ans aujourd'hui, il n'aura pas la même définition. Tu vois, il y a des gens qui nous disent parfois, pourquoi vous appelez Doom, vous n'avez rien de Doom du tout. Nous, nos racines, c'est vrai que, voilà, un groupe comme Trouble, aujourd'hui, est-ce qu'on dirait que c'est un groupe de Doom? On dirait que c'est peut-être old school, etc. Voilà. Tout ça pour dire qu'effectivement, moi, j'ai une petite vision, mais restreinte finalement aux quelques concerts que l'on peut faire de ci de là sur des groupes nouveaux ou existants depuis déjà un certain temps, quoi. Mais effectivement, enfin, il y a notre ami Stéphane Le Saut l'autre jour qui a sorti une compilation, une sélection de plus d'une cinquantaine de groupes français œuvrant dans le registre Doom Fuzz, etc., quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Doom and Stone in France, voilà. C'était le volume 2,
oui.
Et tu as une cinquantaine de références. Bah, j'en connaissais même pas les... un tiers, une moitié à tout péter, à avoir entendu parler, quoi. Ça veut dire qu'il y a une scène très vivace, quoi. Mais ce qu'il y a le public, c'est l'autre question, quoi, à chaque fois.
Alors, Barabbas a sorti seulement 3 disques en plus de 15 ans d'existence. Alors, il y a 2 albums et un EP. Alors... Pourquoi cette lenteur? Pourquoi ce rythme? Est-ce que c'est lié à des choses complètement extra-musicales, ou est-ce que vous avez tout simplement besoin d'énormément de temps pour composer, pour mettre en place les morceaux?
Il y a les deux. Il y a le fait que, bon, le premier, on l'a fait, on a pris notre temps. On l'a fait écrire en 2007, disons, tant qu'on stabilise la formation, tout ça, machin, etc. 2011, après, bon, 2014 pour le deuxième. Ça allait à peu près dans la fourchette raisonnable, quoi, je dirais. Après, l'autre, c'est vrai que les 8 ans, bon, il y a eu plein de choses. Il y a eu vraiment... des histoires dans les vies de chacun qui font qu'il est nécessaire que tu prennes du temps, que tu peux pas... que la musique veut plus rien dire pour toi, à un moment, parce que tu as des problèmes plus gros dont tu dois t'affranchir, etc. Voilà, après, les... panneaux d'inspiration, enfin tout ce qui peut gréver la vie d'un groupe. Le départ de Jay aussi, qui a quand même été, on a mis un an et demi à trouver un autre bassiste, quoi. Il y a eu le Covid aussi qui a tout foutu en l'air, enfin tout foutu en l'air, voilà. Plus la démotivation, des moments comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu Rodolphe, J.C. Thomas, je pense qu'à un moment, moi, j'étais l'éponge, quoi. Parce que il y avait plus de, ça avait plus de. Ça semblait plus important, je sais pas. Bah, il y a des curieuses années, hein, tu sais. Après, c'est rétrospectivement, c'est. Tout est compressé un petit peu par un effet magique. Tu dis, il y a une espèce de boule temporelle, là où 8 ans sont passés, il y a eu plein de choses, mais au quotidien, c'était quoi c'est... Puis en fait, quand tu es groupe amateur, bah, tu essaies d'avoir une répétition par semaine, mais bon, bah, s'il y en a un qui n'est pas là, peut-être qu'on répétera la semaine prochaine. C'est pas, voilà. On avance sur un rythme toujours d'amateur, quoi. Il faut maintenir aussi le plaisir, quoi. C'est un groupe qui est né par plaisir. Moi, j'ai du mal quand on est... c'est vrai que j'ai beaucoup de mal... avoir trop de contraintes avec la musique, parce que ça doit rester vraiment, vraiment, vraiment un plaisir. Sinon, ça devient un taf, quoi, tu vois. Et en plus, t'es pas payé, donc voilà. Non. Mais bon, si, c'est vrai que c'est pas non plus une contrainte quand tu fais une répétition par semaine. Faut pas non plus voir tout en termes de négatif, quoi. Mais bon, non, mais 8 ans passent, voilà, t'as plein de... C'est plein d'événements intérieurs, extérieurs, gros.
Alors, si tu veux bien, Stéphane, maintenant, on va s'intéresser plus précisément à vos enregistrements, donc à vos fameux 3 disques. Alors, moi, je te le dis franchement, je les adore tous les 3, je les aime beaucoup.
C'est très gentil, merci à toi.
Ça commence avec Libéré Barabbas, que j'aime déjà beaucoup. Je trouve ce disque déjà très abouti, donc qui a plus de 10 ans maintenant, qui est sorti en 2011, qui est un EP. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce disque ?
En fait, c'était vraiment l'idée, l'idée au départ du groupe, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment au début de se faire plaisir. Voilà. Il n'y avait même pas l'idée de... Simplement l'idée d'enregistrer quelques morceaux dans la veine de ce qu'on écoutait, de ce qu'on aimait en termes de doom, tout ça. Donc c'est une période assez joyeuse, et l'enregistrement, techniquement, mais à part Jay, Jérôme, le bassiste de l'époque, qui était un très très bon guitariste, qui était un très bon musico, soit être honnête, en plus d'être un ingé son qualifié. Donc c'est lui qui a enregistré l'album, et c'est plus qualifié. Moi j'étais assez calamiteux à la guitare, j'y sais, c'était mis à la batterie depuis peu, donc c'était pas forcément génial. Rodolphe, c'était sa première expérience en studio, tout ça. Donc en fait, c'était un peu le foutoir au niveau technique, mais c'était plutôt un temps de... J'ai des très bons souvenirs, parce que c'était des temps de naïveté, d'une certaine façon. C'est le début du groupe, on n'avait absolument aucune perspective sinon faire quelques morceaux, donc on n'était pas trop embêté par les soucis de se dire est-ce que ça sonne bien, est-ce que ça sonne pas bien, etc. Donc après on a fait, voilà, c'était les morceaux, bah c'était un petit peu à l'époque, c'était pas du la composition, c'était un petit peu de se dire voyons, j'aime bien ce morceau de cathédrale, il est plutôt sur un rythme boogie, faisons un rythme boogie. Ok, tiens, poum, 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 ok. Oh, j'aime bien ce morceau de Black Sabbath, il est très lent et obsédant, etc. Je vais en faire un sur un rythme beaucoup plus lent et obsédant. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, un ami, une relation qu'on avait dans les pays du Nord, nous avait dit ça sonne comme le cathédrale français. C'est vrai que c'était un petit peu une décalque de cathédrale. C'était, on n'échappait pas encore à nos influences. Mais j'aimais déjà les morceaux, on en a. Il y a un morceau qu'on joue toujours, c'est Quatre Cavaliers. On conclut toujours les concerts avec, parce qu'il a une bonne énergie, quoi. Voilà, une bonne énergie. Après, les paroles étaient très... Alors à l'époque, on nous avait dit, vous êtes un peu... ouais, c'est du rock chrétien, tout ça. En fait, non, c'était plutôt, comment dire... c'était une période difficile, c'était une période... j'avais perdu mon taf, je ne savais pas comment j'allais faire pour l'avenir. Enfin, j'étais papa depuis peu, c'était un très très angoissant. Et je pense qu'il y a un petit complexe de persécution, un truc comme Horizon Golgotha, etc. C'est vraiment... en fait, c'est pas tant... C'est vraiment des derrière les métaphores religieuses, c'est un petit peu... je pense que ce que je pensais que je vivais à l'époque, c'est-à-dire l'idée de se dire, mais putain... Vraiment, c'est pas facile pour moi en ce moment, quoi, etc. Quoi. Il y a beaucoup d'auto-apitoiement, en fait, sans doute. Et pareil, pour Quatre Cavaliers, c'était un peu... Mais à quoi bon aller au travail, trimer, puisque tout peut s'arrêter. C'était sur le côté inéluctable de l'existence, finalement. Le côté, inéluctable de toutes les embûches qui peuvent se mettre sur ton chemin. Donc, c'était pas du rock chrétien, quoi. Mais à relire les textes, parfois, je me dis, putain, oui, on dirait un groupe de white metal, quoi. Et c'était pas l'intention. Voilà.
Bah, en même temps, c'est des thématiques très doom, hein, aussi.
Tout à fait. Et puis, il en fallait quand même une, sur Barabbas. Barabbas, on va peut-être le reprendre, celui-là. C'est vrai que le texte est pas si mal à le relire. Il tient encore à peu près ça tient à peu près le choc. Et on est toujours sur une idée très doom, qui est effectivement l'impossibilité, parfois, malgré la bonne volonté, à se diriger sur un bon chemin de vie, entre guillemets. Je dis, sans connotation religieuse, je dis, mais de de faire ce qu'il faut pour que ta vie aille bien. Et tu dis, mais pourquoi j'ai encore fait le contraire de ce qu'il fallait que je fasse, quoi? Pourquoi j'arrive pas à apprendre de mes erreurs? Pourquoi je fais toujours les mêmes conneries? Pourquoi je me mets toujours dans les mêmes situations à la con? Je devrais le savoir quand même. Et comme si t'avais pas de pédagogie parfois de ta propre existence, quoi. Ce qui est parfois totalement flippant, quoi. La façon dont tu te remets toi-même dans les merdes dont tu as déjà souffert, c'est assez. Voilà. Donc Barabbas, à ce niveau-là, voilà, pouvait avoir une petite actualité. Et c'est vrai que ce petit disque, bah, on espère un jour le faire represser. On est avec Sleeping Church, notre label, il serait intéressé. On aimerait bien, et des gens nous le demandent parfois, oui, c'est vrai. C'était une bonne petite introduction, et puis là, il nous a permis de faire la connaissance de notre ami Stéphane Leceau, qui s'occupait d'un blog qui s'appelle Temple of Perdition, qui fait aujourd'hui la. Alors, on en a parlé tout à l'heure de Stéphane pour la compile Doomed and Stone in France, volume 2. Et Steph fait aussi comme une chaîne YouTube Morbidoom. C'est pareil, lui, c'est un connaisseur. C'est vraiment un connaisseur très très pointu de la scène Doom, quoi. Stéphane Leceau. Donc lui, avec ce premier EP, il avait flashé son nom, coup de chance. Voilà. Donc on a eu notre. Voilà, ça a été. On peut le dire, hein, c'était du copinage. Il nous a fait vraiment. Il a vraiment flashé sur nous. C'est devenu un ami par la suite. Mais au départ, il nous a accordé des interviews. Il nous a permis d'écrocher des concerts. Il a parlé de nous à des festivals. On a fait. On a eu pour un groupe, enfin étonnamment pour un groupe qui avait sorti 4 titres et qui n'avait pas d'historicité, enfin qui n'avait pas d'histoire, qui sortait de nulle part, on a eu déjà avec ce EP un petit parcours sympathique, quoi, grâce à Stéphane Leceau, que je remercie.
Et d'ailleurs, je précise que Stéphane Leceau et toi-même êtes deux différentes personnes. Parce que...
Oui, tout à fait, nous partageons le même prénom.
Oui.
Mais en fait, comme c'est vrai que c'est un peu consanguin, Steph a fait, voilà. Et il a fait énormément pour nous, c'est un bon pote, quoi.
Non, mais je disais ça parce qu'il y a une petite erreur dans Rockard.
J'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Bon, c'est pas. Après, on n'a pas fait corriger, parce que c'est pas, voilà, c'est pas très. C'est pas très grave, même à la limite, c'est amusant, presque, d'une certaine façon, quoi. Donc voilà, on n'est pas. Non,
mais je t'avouerai que moi, j'ai connu Barabbas, j'avais un petit doute aussi. Hein. J'ai dû demander à Laurent Lignon est-ce que Stéphane Leceau était le guitariste de Barabbas, me dit que non.
Non, c'est bien deux personnes. Déjà, il est beaucoup plus grand et athlétique que moi, donc on ne peut pas nous confondre.
Bon, en tout cas, Libérer Barabbas, moi, je l'aime beaucoup. Il y a un son un petit peu plus extrême que les albums à venir.
C'est ça, c'est plus bordélique. Hein. Et puis, il était très axé... voilà, à l'époque, on n'est que quatre. C'est-à-dire qu'il y a guitare, vraiment une formation à la sabbat, quoi. Un chanteur, sans autre instrument, un bassiste, un batteur. J'adore ce genre de formation parce que chacun est à sa place, il y a un côté vraiment essentiel, quoi. Bon, bah voilà, c'est plus brut, parce que déjà, voilà, on n'a pas du tout l'habitude. C'est un premier enregistrement, mais je l'aime bien parce qu'il était fait dans une espèce d'esprit ouais, c'est pas grave, je joue comme une sabbat, mais c'est pas très grave. On va écouter parce que c'est une maquette améliorée presque. Mais Jay était un très bon ingé son, donc il a réussi à sublimer tout ça.
Oui, le son est très bon. Ouais,
ouais, je trouve. Et puis il y a deux trois petits arrangements seulement, mais qui vont toujours bien, quoi. Toujours bien. Donc c'était un bon. On était content, quoi. On peut passer à Messe pour un chien.
Allez, allez.
Alors c'était le deuxième. Alors celui-ci, on a déjà mis. Il y avait 2014. Pourquoi 2014? Parce que en fait, on avait fait quelques dates, tout ça, c'était un peu, c'était d'autres morceaux. On commençait à avoir des morceaux qui étaient peut-être un peu moins typiquement conformes conformes à nos influences, qui étaient peut-être un petit peu moins identifiables à nos influences. Je pense à des morceaux comme justement le morceau Messe pour un chien, sur Messe pour un chien, ou le sabbat dans la cathédrale, ou La beauté du diable. On avait des choses purement doom comme Judas est une femme, ou le couteau ou l'abîme, et on avait des choses qui commençaient à prendre un petit peu de... Je dirais pas des distances, mais qui restaient qui prenaient des libertés avec les fondamentaux du genre. Mais toujours à l'exemple de ce qu'a fait Cathédrale, par exemple. Moi, je suis assez admiratif de ce groupe-là, ou même comme Sabbath, qui ont su à un moment vraiment élargir leur palette pour se frotter à plein de sensibilités différentes, tout en essayant de rester fidèle à leur identité de base, quoi, d'une certaine façon. Donc, Messe pour un chien, c'est là-dessus qu'on va essayer, on commence à essayer d'infuser d'autres idées. Il y a un peu plus d'arrangements. Bah, il y a Judas avec une femme, c'est un bon morceau, je pense. Il y a de bons trucs. J'aime bien, c'est comme le premier, il y a un côté un peu bordélique quand tu l'écoutes attentivement. Il n'y a pas beaucoup d'éditions, c'est brut. C'est pas gênant, moi ça me gêne pas du tout.
Il y a un côté live un peu.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était un peu cet esprit-là. Jay, clairement, c'était notre bassiste. Il disait, moi je vais pas me tartir à faire de l'édition sur toutes vos erreurs, les gars. Vous apprenez un peu à jouer. Enfin, ouais. Mais il avait pas tort. Et finalement, ça donne un côté un petit peu maquette, un peu. C'est assez proche de ce qu'on est. C'est relativement proche de ce qu'on est sur scène, quoi, d'une certaine façon, peut-être plus proche que de ce qu'on est sur scène, une version moins idéalisée, disons. Et ouais, il y avait des bons trucs dessus, on commence à faire un peu plus des arrangements un peu plus sophistiqués, tout ça, mais bon. Oui, c'est plutôt c'est un bon souvenir, parce que pareil, on continue à. Là, on commence pareil. Enfin, le premier avait été bien accueilli, le deuxième un petit peu mieux accueilli. On commence à avoir des concerts à l'étranger, des choses comme ça, des festivals. Donc, il y avait une progression qui se faisait effectivement assez naturellement, quoi, une progression assez naturellement. Et après, je vais dire très sincèrement, je réécoute pas forcément notre musique quand elle est faite. Voilà. Mais ça, c'est pas lié à Barabas, hein, c'est en général tous les groupes. Tu fais la musique, voilà, après tu l'écoutes un peu comme ça, mais bon, c'est fait, quoi. T'as envie de passer à autre chose un petit peu. Mais c'est vrai que déjà on était content de réussir un véritable album après le EP, je pense, tout simplement. Et une fois de plus, c'est Jérôme Jay, notre bassiste de l'époque, qui avait gentiment accepté de réaliser l'enregistrement, quoi.
Vous l'avez enregistré à l'empreinte de Savigny, celui-là, je crois.
Ouais, tout à fait. C'est pareil, voilà, c'était. Ouais, Savigny le temple, tu vois, c'est rigolo, on répète Barabas qui répète à Savigny le temple, voilà. Oui. Voilà. Donc t'avais c'est amusant toute espèce de nébuleuse de coïncidences, quoi. Voilà. Donc effectivement, oui, bon album. Il y a des bonnes choses dessus, il y a des bonnes choses, je pense.
Bah, tu parlais du morceau Judas est une femme, c'est avec celui-là que je vous ai découvert, moi. Je crois que ça devait être sur une compile. Où vous l'avez sorti plus ou moins entre guillemets en single avant, mais c'est ce qui m'a interpellé, moi.
Je crois qu'on l'avait, ouais, on l'avait dit. Enfin, je dis, avait fait une autre version d'ailleurs qui est sur YouTube, qui avait fait une autre version qui était c'est celui que les gens retiennent le plus facilement, quoi, d'une certaine façon, quoi. Après, on nous a dit, faites gaffe quand même, c'est pas très machin féminin, féministe, c'est pas du tout, voilà, c'était. C'est une chanson sur la trahison amoureuse, quoi. Donc c'est toujours un petit peu, c'est pas un clin d'œil, on va pas dire ça non plus, mais t'as quand même ce côté, tu vois, toutes ces vieilles chansons de blues où les mecs, c'est toujours la faute de la femme, tout ça, machin. Alors c'était pas dans ce sens-là, mais il y avait un clin d'œil à ces trucs, quand t'entendais, comment s'appelle l'autre là, Skip James, Devil Got My Woman, des choses comme ça, mais voilà, t'as tout un vieux fond comme ça, tu lâchais Robert Plant, Led Zeppelin également, quoi, tout ça. La trahison amoureuse, quoi, l'homme au cœur brisé.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ouais.
Un thème éternel.
Et justement, c'était assez malin, cette métaphore.
Ouais, en fait, c'est un peu un hasard, parce que pour être très franc, les paroles existaient très longtemps avant le morceau. Ça restait dans un coin de carnet, et puis d'un coup, le titre. En fait, c'est le titre qui a rendu toute la mayonnaise possible, quoi. Le titre est tellement évident, quoi. C'est marrant. Des coups de chance, t'as des fois des coups de chance. Des fois, tu passes des mois à écrire des textes pas terribles et t'en as conscience, et c'est le pire. Tu dis, oh putain, j'y arrive pas, quoi. Et des fois, t'as la chance d'avoir la petite fulgurance, quoi. Enfin, fulgurance, ouais. Niveau, on reste modeste.
Donc, c'est toi qui écris tous les textes, en fait.
Majoritairement, oui. Ouais.
Est-ce que Rodolphe les modifie pour.
Ah, il faut que ça lui plaise. Tu fais pas chanter à Rodolphe un truc qu'il veut pas chanter. Hein. Non. En plus, il le dit pas vraiment dans ces cas-là, mais tu vois bien qu'il est pas à fond, quoi. Ouais. Donc, non, il le dit, il est honnête, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il veut pas vexer parfois, quoi. Parce que moi, en plus, je suis un peu la diva, quoi. Oh, j'ai écrit mon texte, il est très bien, c'est parfait. Mais en fait, non, mais c'est difficile, hein. C'est difficile, hein. C'est difficile, non, c'est pas difficile, hein. On n'est pas à la mine, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut trouver effectivement les mots que quelqu'un d'autre va chanter, quoi. Après, c'est lui qui leur donne vie, hein, de toute façon. C'est le talent des interprètes. Tu vois ce que je veux dire, c'est que Elvis Presley, c'est des mecs. Voilà, t'es pas forcé d'écrire les textes pour pouvoir les sortir avec un aplomb inimaginable, quoi. Et se les approprier comme ils les approprient, quoi.
Alors, on va passer au album le plus récent, hein, qui est sorti en 2022, La mort appelle tous les vivants. Que peux-tu m'en dire ?
Celui-là, c'était donc c'était très long, très difficile. Pas l'enregistrement lui-même, parce qu'on enregistrait. Alors Jay nous avait quittés, donc bon, on est passé par différentes phases. Jay nous ayant quittés, on a donc recruté Alexandre, notre nouveau bassiste, il y a quelques années. Et l'enregistrement, du coup, c'était plus Jay qui pouvait le faire. On l'a fait au Hybrid Studio à Fontenay, là, vers Paris, avec Andrew Guillotin, qui est quand même un un beau connaisseur du genre. Et ça, c'était un moment très agréable. L'enregistrement avec Andrew, Nico, le studio, tout ça, très très. Mais c'est vrai que la genèse de l'album, ça a été très 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 laborieux. C'est pas forcément des bons souvenirs. On n'était pas forcément d'accord les uns les autres. Il a vraiment fallu du temps pour. Déjà, en fait, après le deuxième, après Metz, on avait fait quand même. On avait enchaîné un peu, enfin enchaîné pour notre petit rythme. On avait privilégié un peu une activité de scène quand on nous donnait des concerts. Mais pour un groupe comme nous, bah, c'est très absorbant parce qu'on n'est pas, on n'a pas un niveau technique de titan. Donc forcément, on répétait, on passait tout notre temps à répéter le set, quoi. Et on avait perdu l'habitude de créer ensemble, tout simplement. Donc il a fallu déjà du temps pour qu'on se remette sur la même longueur d'onde niveau compo. Là, trouver une espèce de terrain d'entente tous pour qu'on puisse collaborer. C'était la première fois aussi qu'on travaillait avec Thomas, un nouveau guitariste. Donc Thomas nous a rejoint après Messe pour un chien. Donc il fallait aussi inclure un autre guitariste dans la composition, comment ça allait se passer, etc. Donc il a fallu du temps pour qu'on apprenne à travailler ensemble. Et puis ça a été. Bon, ça a pris du temps. Après, trouver les morceaux, on n'était pas forcément d'accord sur les textes, sur les morceaux, les machins. Plus après les interruptions, enfin les problèmes personnels, tout ça a vraiment énormément, de mon point de vue, ça a vraiment contribué à assombrir toutes les phases de création. C'était difficile. Et vraiment, c'est l'album qui est né dans la douleur, quoi. Après, j'étais totalement obnubilé par l'idée qu'il fallait pas d'arrangement. J'y sais voulait des arrangements. Il a bien eu raison d'insister parce qu'au final, ça fait quand même le charme de l'album. J'étais vraiment, j'ai pas eu de bonnes idées, quoi. Je suis content que l'album existe. Je suis content du résultat. Je suis content qu'il plaise, je vais être honnête. Après, nous, on est content de certaines choses. Après, forcément, c'est un résultat quand tu les écoutes. Enfin, chacun a un point de vue différent. On est globalement hyper content de l'accueil, quoi. Mais c'est vrai que ça a été super. C'était pas une partie de plaisir, voilà, tout simplement. Ouais. C'était pas une partie de plaisir. Ça a été très long. Il y a eu vraiment des. Mais que moi, attention, à un moment, j'avais des soucis perso. Pas insurmontable, c'est ça que je veux dire, mais tu n'as plus du tout la musique en tête. La musique n'est même pas un réconfort, elle a un problème au-dessus de tes problèmes, donc t'as plus envie de rien faire, quoi. Donc j'ai été assez pénible à ce niveau-là, quoi. Pour ça, je dis que le groupe, vraiment, s'il existe encore aujourd'hui, c'est bien de proposer des chansons, tout ça, mais si t'as pas quelqu'un qui va les faire vivre, si t'as pas quelqu'un qui dit à un moment, bon, maintenant qu'on a un disque, il faut décrocher des concerts, si t'as pas quelqu'un qui après dit, bon, maintenant qu'on a décroché des concerts, faut qu'on s'organise, et tout ça, voilà, moi, ça, je sais pas le faire, s'il y a pas un groupe pour le faire, tu vois. Moi, je fais des chansons, et puis après, elles sont jamais faites, quoi. Donc, tout ça pour dire que cet album, globalement, je suis très content de l'accueil qu'il y a, mais après, c'est vrai que la genèse a été vraiment. Ça ne te renvoie pas forcément à des moments très heureux. Hein, c'est bizarre.
Oui, mais c'est normal, un album. Enfin, quand on est artiste, son album, sa création, c'est aussi une entrée dans un journal intime, quelque part, et ça nous ramène toujours à ça quand on y est confronté. C'est un petit peu pareil pour tout le monde, je pense.
Je me vois vraiment pas, et je pense aucun d'entre nous ne se voit comme des artistes, parce qu'on fait vraiment, à l'origine, on fait de la. On a beau dire, on joue du doom, mais c'est comme tu fais du rock avec tes potes dans une cave, quoi, tu vois, dans un local, mais c'est vraiment ce sentiment que tu as à 16-17 ans avec tes copains, voilà, c'est le groupe un peu, c'est l'espèce de cocon, voilà, c'est plus le côté, c'est des potes qui font de la musique ensemble, et ça te. Quand la vie est difficile, c'est une petite bulle de réconfort, un truc comme ça. Or là, c'était même plus ça, il y avait tellement de problèmes à droite, à gauche, machin. On a tous été affectés, on a tous eu des. Mais c'est ce qui est tout à fait normal. Plus tu avances en âge, et plus tu vas te confronter à des problèmes de disparition, de proches, de choses comme ça, ou de soucis dans ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, etc. Donc c'est vrai que toute cette période, était pas une période super, super, super heureuse, quoi. Plus le Covid là-dessus qui a fait que plus le départ de Jay, enfin bon. Oh mon Dieu, que d'affaires. Non, mais tout ça pour dire, voilà, c'est pas l'horreur. Il faut relativiser, bien évidemment. Mais c'était une genèse compliquée. Mais c'est vrai que très sincèrement, je leur disais, je suis déjà très sincèrement étonné et je suis heureux qu'on se rappelle de nous. Moi, je pensais même pas que des gens aient se rappeler du nom de Barabbas. Quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne mens pas. Hein, je suis très très content. Je dis pas des fois. Je sais pas si j'aime cet album ou pas, c'est difficile après quand c'est ton truc, tu vois ce que je veux dire, c'est fait, hein. c'est difficile de juger soi-même parfois, quoi. Mais on est très content de la réaction de la réaction qu'il y a et de l'accueil, pas de l'accueil, l'absus révélateur, non, que de l'accueil qui lui a été fait. Quoi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pareil. Heureusement, voilà, on est sur Sleeping Church Records, un label donc, qui a été créé par Moot de Présomption et Arik et son frère Anaël. Arik qui joue dans Phaser Merin, donc deux groupes de Doom qu'on connaissait bien avant la création de Sleeping Church. On avait partagé la scène ensemble, on s'apprécie humainement, etc. Et c'est pareil, eux, ils ont toujours eu une foi indéfectible en nous. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'on était au fond du trou, les morceaux sortaient pas. Moot était venu en répète, il dit « Moi, ça me va, ce que j'entends, c'est parfait, c'est ce que je veux, moi, pour Sleeping Church, je veux ce Barabbas-là. » Ça a été une motivation, mine de rien, même quand ça n'allait pas, que j'avais envie d'arrêter. JC me disait « Mais attends, t'arrêtes pas, tu peux pas arrêter. Il y a Sleeping Church qui veulent nous signer, nous veulent sur la label, etc. » Et ça a été, mine de rien, tout ça, ça a été des espèces de motivation, de béquilles pour traverser des moments qui étaient où tu te dis ça sert absolument à rien, autant ranger la guitare, la vendre, et puis voilà. C'est... Mais bon, voilà, toutes ces... Non, c'était une période un peu sombre, c'est vrai. J'en ris maintenant, mais bon, c'était... Ouais, il y avait des problèmes, quoi.
Bon, en tout cas, ça vous va bien, parce que l'album est quand même bon. C'est ça, je pense, la base du bon accueil, hein, je pense.
J'ai du mal, c'est pareil, comme j'étais pas sur la même optique que JC, c'est vraiment c'est notre référence S arrangement et son, quoi, notre batteur. C'est vraiment une oreille très compétente pour ça. Donc moi je suis un peu j'ai tendance à être un peu bourrin, je me dis ça y est, une chanson, on a un couplet, un refrain, un pont, il y a un texte, allez hop, ça roule, c'est bon, quoi. Et lui il sait que c'est à ce moment là que le travail commence. Et j'ai vraiment été très très prise de tête parce que je voulais un truc un peu épuré, tout ça, alors que l'album est bien parce qu'il y a beaucoup d'arrangements, il a eu raison, quoi. Et s'il m'avait écouté, l'album ne serait pas terrible, quoi. Donc c'est pour ça, voilà, c'est vrai que j'ai éprouvé rapidement. Cet album m'a permis d'éprouver mes limites, quoi. Ça va pour composer 2-3 trucs dans un coin, voilà, et puis créer quelques paroles, tout ça, mais après, voilà. C'est d'où l'intérêt de travailler en équipe, quoi, tout simplement. Quoi. Je serais incapable de faire ça tout seul. Quoi. J'ai pas l'oreille pour ça, tout simplement. Quoi. Pour les arrangements, je parle, hein, toutes les idées qu'il a.
En tout cas, il y a une réussite certaine sur cet album-là. Moi, je trouve que c'est l'adéquation entre la musique et les textes. Parce que les trois premiers titres, hein, enfin, si j'exclus l'intro, Je suis mort depuis bien longtemps, le Saint-Riff rédempteur de la viande. Franchement, moi, la première fois que j'ai écouté, j'avais la chair de poule. Je trouvais que ça fonctionnait tellement bien. Ce texte justement évident en français et bien écrit et compréhensible avec la musique, ça fonctionnait vraiment bien ensemble. Et ça, c'est pour moi une des grosses réussites de l'album. Le chant en français, c'est pas juste du français, ça c'est englobé par la musique, tout, c'est un tout qui fonctionne parfaitement. Et je pense que c'est ça que les gens ont aimé dans cet album là
bah, on essaie que ce soit, tu vois, il faut qu'il y ait on essaie qu'il y ait un sens, qu'il y ait une histoire ou quelque chose qui se raconte, mais surtout il faut que ça reste musical. C'est un truc, ça m'avait marqué, c'était Gillan qui parlait de Ian Gillan de Deep Purple. Il disait que la première qualité d'un texte, il disait c'est son côté rythmique. Ah bon, j'avais pas compris à l'époque, mais en fait il a raison. Si t'as un texte qui tape rythmiquement bien, qui tient bien, déjà on va avoir envie de l'écouter, quoi. Après il faut du sens, effectivement, mais tu vois, c'est un morceau, il y a un morceau exemplaire à ce niveau là je trouve, c'est le morceau de Rita Mitsuko, c'est comme ça, tu vois, le fameux morceau là,
ouais.
90% des gens sont incapables de dire, bon, le premier, qu'est-ce qu'il dit, ça tourne, ça,
ouais, de quoi ça parle, ce truc,
je sais pas, voilà, je sais pas de quoi il dit, mais t'as pas besoin, je veux dire, tout est tellement bien placé, le morceau il t'emporte avant de te poser la question du sens. Quand tu rentres après dans le morceau, ah oui d'accord, elle veut dire quelque chose, etc., mais d'emblée t'as quelque chose d'une musicalité exceptionnelle, quoi. Enfin, exceptionnelle, t'as totalement musicale, quoi. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de tendre vers ça au maximum, quoi. Mais je dis pas qu'on y arrive, hein, mais on essaye vraiment, ça, de faire des chansons, vraiment une chanson. C'est-à-dire, ça veut dire que bah, si t'as cette rampe d'accord, bah, tu pourras pas mettre plus de... Là, faire gaffe, il faut que tu aies 5 pieds, puis là, 6 pieds, puis après 5 pieds. Enfin, il faut compter tout ça, quoi. Que ce soit vraiment... tout tienne bien rythmiquement, quoi, de la batterie aux syllabes, essayer que tout soit cohérent, quoi. Des patterns de batterie jusqu'à, voilà, tout doit se... Normalement, l'idéal, c'est ça, c'est que ça doit... Alors, j'ai pas... Honnêtement, on n'a pas la prétention d'y arriver, c'est pas ça, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de ça, quoi. D'essayer, mais bon, on en est loin. Mais c'est la... C'est vrai que c'est ce qui fait les grands morceaux, quoi, souvent. C'est justement le... Toutes les parties se justifient les unes les autres, s'imbriquent, fonctionnent ensemble. Y a... tout est cohérent et limpide, quoi. Une espèce de fluidité. C'est ça, là. C'est ce qu'on dit, c'est un cliché, mais c'est vrai. C'est quand on dit, tiens, un groupe comme les Beatles, leur art, c'est de faire disparaître la difficulté. T'as l'impression que c'est facile, quoi. Mmh. T'écoutes Blackbird, tu dis, ah ouais, ça coule, quoi. Ouais, ouais. Bah, tiens, on va le jouer à la guitare. Tu vois. Voilà, va le composer, va jouer à la guitare. Voilà. C'est le talent de. C'est, voilà, c'est la simplicité, de donner une impression de simplicité et de limpidité. Mais voilà, nous, c'est quand même plus laboreux. On n'est pas les Beatles, je crois que ça s'entend, mais bon. Voilà, c'est ça l'idée, quoi, en fait. Essayez au moins, quoi.
Alors, je l'ai dit, hein, La mort appelle tous les vivants. Donc, le dernier disque en date de Barabbas a connu un certain plébiscite. Je l'ai pu voir dans la presse et sur Internet, beaucoup de très bonnes critiques à son sujet, qui sont justifiées à mon avis. Alors, ça vous a permis nécessairement de vous hisser à un niveau de reconnaissance plus élevé, hein, j'imagine, et puis peut-être ouvrir des portes vers plus de concerts, etc. Tu me diras si c'est vrai ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, justement, on en revient à notre conversation de tout à l'heure, malgré ce fameux chant en français, est-ce que vous avez pu trouver aussi un écho à l'étranger ? Parce que moi, j'ai vu en fait des bonnes critiques à l'étranger aussi. Est-ce que tu en as eu vent ?
Oui, on a eu globalement des bonnes critiques, ça c'est vrai, à l'étranger. On a eu une très négative, par contre, où un mec disait que c'était l'Eurovision du Dôme. J'ai trouvé ça rigolo, mais c'est vrai que c'est un peu... Voilà, je peux comprendre. Mais voilà, pour lui, c'était une espèce de décalque de l'idiome Dôme avec un chant plaqué en français dessus pour faire couleur locale. Je peux comprendre, hein, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Je peux comprendre qu'on le voit comme ça. Mais globalement, il y a eu plutôt des bonnes chroniques. On a été chroniqués dans un magazine... allemand, dans un magazine russe, tout ça. Maintenant, il n'y a pas de corrélation au niveau, disons, c'est pas pour autant que ça a déclenché une vague de concerts à l'étranger, en France, ou curieusement, on avait plus d'opportunités avec les deux premiers, avec le premier EP et le premier album. Là, on a eu des belles opportunités aussi, on a des belles choses, mais c'est plus difficile, tu vois.
Oui, c'est post-Covid aussi.
Il y a le Covid, et puis tu vois, ça fait presque 10 ans, 2014, tu vois, mine de rien. Donc, en 10 ans, tu as une autre génération, tu as d'autres goûts. Tu vois, tu avais les soirées Stone Gathering, Doom Gathering. Ça a été remplacé, enfin, ça existe, mais c'est beaucoup plus... j'ai l'impression que c'est moins important. Ça ne veut pas dire que la scène est moins vivace, hein, c'est pas ça. Mais les lieux, les vitrines pour exposer le style sont peut-être... y a peut-être un petit peu moins de vitrines et c'est peut-être un petit peu moins populaire. J'ai l'impression que c'est plus les groupes post quelque chose aujourd'hui qui ont plus la cote. Et puis après, tu as le fait, on en parlait le jour avec un pote, on se disait, c'est vrai, t'as pas... quand tu avais un Wizard, un Electric Wizard ou un Révérend Bizarre, c'était des gens qui arrivaient à... disons à s'adresser à un cercle plus large que celui des simples, enfin que celui des amateurs de doom. Tu pouvais même, à la limite, tu peux écouter, tu vois, du punk, tu peux écouter des musiques, du stoner et flasher sur Electric Wizard. C'est pas gênant, tu vois. T'es pas purement métal. Donc t'avais des groupes qui étaient un peu locomotives, qui drainaient un public sur cette scène. Donc des gens qui disaient, tiens, bah Wizard, c'est pas mal. Je vais écouter d'autres gens dans ce style, quoi. Et j'ai l'impression que je peux me tromper, mais de mon petit point de vue, j'ai pas l'impression qu'il y ait des groupes qui aient repris ce côté locomotive de Cathédrale ou Wizard ou Reverend Bizarre. T'as des groupes qui drainent, mais peut-être pas aussi iconiques d'une certaine façon. Donc ça c'est pareil, c'est pas forcément bon pour les scènes quand t'as pas de fer de lance identifiable, tu vois. Identifiable et surtout qui vont avoir une présence dans les médias telle que des gens vont avoir envie de s'intéresser à ce groupe et donc au groupe de style similaire. Je ne sais pas si je suis clair, si. Non,
si, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense que ce public un peu hipster sur les bords s'est déplacé vers le post en fait maintenant.
C'est ça.
Post-metal, post-rock.
Bah, ouais. Parce que aussi, il faut être honnête, il y a eu un côté, peut-être vers 2000-2006, il y avait un côté un peu peut-être. Disons, c'est pas nouveau parce que le doom existe depuis longtemps, mais il y avait un côté un peu plus mainstream, un peu plus,
oui,
c'était un peu plus, voilà, ça faut être honnête, hein, y a eu d'un coup comment, et peut-être qu'à un moment ça aussi, bon bah l'attrait de la nouveauté est quand même passé, quoi. C'est un peu comme le stoner, quoi. La première photo que tu vois, la première pochette, tu vois, avec un bus dans le désert, enfin un van dans le désert, un grand ampli, une photo fisheye, oh, un cactus, ça pète, t'envoies deux, oh, ça pète, et puis au bout de 10 tu dis, oh, c'est toujours la même, quoi. Et c'est peut-être un peu ça, il y a peut-être eu beaucoup de je sais pas. Peut-être que voilà, les gens sont un petit peu lassés, on passe à autre chose. Et puis en 10 ans, t'as déjà t'as une demi-génération, quoi. C'est
Non mais c'est vrai.
Donc les gens passent à autre chose. Voilà. Donc ça peut expliquer qu'il y a moins d'opportunités. Après, je me dis aussi que tu as des gens qui aiment ce que tu fais et qui le disent. Il y a aussi tous les gens qui n'aiment pas ce que tu fais, mais qui ont la gentillesse de ne pas le dire. Donc il y a peut-être il y a une masse sans doute très supérieure de gens qui ne sont pas du tout sensibles à ce qu'on fait, qui n'écouteront jamais Barabbas et qui s'en foutent, quoi, tout simplement. Donc,
Oui, bah ça, je pense que c'est la majorité du public, en fait. Le public est globalement indifférent, et puis c'est différents paramètres qui vont faire qu'il va s'intéresser à ce que tu fais. Ça, je pense que tous les groupes sont confrontés à ça.
Exactement.
Alors, cher Stéphane, on arrive tranquillement à la fin de cet entretien, mais j'ai une dernière question à te poser, et cela concerne le futur et l'héritage de Barabbas. Alors, au-delà des potentiels obstacles qui pourraient se dresser sur la route du groupe, hein, alors que vous avez déjà, en fait, à t'écouter, rencontré, du moins en partie, est-ce qu'il y a des ambitions à accomplir, des routes à parcourir, des projets à réaliser auxquels tu ou que vous, hein, en tant que collectif, tenez absolument? Et pour finir, comment souhaiterais-tu, dans tes rêves les plus fous, qu'on se souvienne de toi et qu'on se souvienne de Barabbas lorsque le groupe n'existera plus?
Vaste question. Des rêves, oui, des rêves, on en a forcément. Après, il y a effectivement ce qui reste du domaine du rêve, c'est-à-dire du fantasme inaccessible, du rêve un peu plus réalisable. Disons que je pense que quelque chose qui nous plairait beaucoup, c'est de faire des dates avec un des groupes qui nous a motivé à jouer. C'est vrai que Vitus, ne serait-ce qu'un concert où on sera en première partie de Vitus, voilà, ce serait une forme d'accomplissement, mais donc oui, ce serait quand même quelque chose qu'on aurait fait, ou peut-être imaginons par exemple un groupe comme Cathedral se reforme et on aurait la chance de faire une ou deux dates avec eux, voilà, on serait très très heureux. Ce serait une façon un petit peu de boucler la boucle, mais ce serait quelque chose qu'on vivrait très très bien. Après, bien évidemment, faire toujours des... on aimerait bien faire des festivals en France, à l'étranger, des choses comme ça, plus de concerts à l'étranger, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une forme, faut être honnête, hein, ça permet aussi c'est toujours sympathique de voyager en groupe, de découvrir de nouvelles choses, donc c'est vrai que ce serait des choses qu'on aimerait beaucoup faire. Et puis bien évidemment de continuer à sortir d'autres albums, quoi, hein, peut-être à un rythme un peu plus soutenu, mais ça c'est pas du rêve, c'est du travail, et ça dépend en grande partie, ça ne dépend que de nous, ça, tout simplement, donc il n'y a pas, voilà. Mais oui, en termes de rêve, rien d'inaccessible, enfin, voilà, ce serait ça, les rêves un petit peu qui nous animent, quoi. Peut-être, on verra si certains se réalisent ou pas. C'est une situation difficile pour tous les groupes en ce moment, on le sent bien, c'est pas facile de trouver une simple date, des choses comme ça, donc à plus forte raison d'être choisi, pourquoi pas, pour être là en première partie d'un groupe prestigieux, etc. Voilà. Mais on sera de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on serait très content de continuer à sortir nos albums et puis à vivre à notre petit rythme, quoi, tout simplement. Tant que l'amitié est là, tant que le plaisir de jouer ensemble est là, tant que la motivation pour jouer cette musique est là, voilà, c'est ce qui nous fait, ça continuerait à nous faire vibrer, tout simplement, quoi. Et quant à savoir comment on aimerait se souvenir de Barabbas, personnellement, j'aimerais bien qu'on dise que c'était un bon groupe qui a compté dans le paysage hexagonal, comme quand je pense à des groupes français de métal ou de rock, tout simplement, ou de choses comme ça. Donc je me dis, bah tiens, eux, ils ont, c'est vrai, une pensée pour eux, parce que c'était des gens qu'on écoutait, qui ont marqué d'une certaine façon. Donc voilà, pourquoi pas. Ça me plairait qu'on laisse une petite trace à ce niveau-là. Maintenant, qui se souviendra même peut-être, on voit bien, on n'est quand même pas un groupe très connu, donc on n'est pas du tout un groupe connu, pour être franc, donc je ne sais même pas si on se souviendra de nous, si on s'arrête, est-ce qu'il y aura encore des gens pour se souvenir de nous, je ne sais pas. Il y a une chanson de Cathedral là-dessus d'ailleurs, dans je ne sais plus quel album, je ne sais pas si c'est pas sur The Guessing Game, où ils se posent la question, ils disent que dans 20 ans, nos albums seront achetés par des collectionneurs. C'est amusant qu'ils se posent la question, c'était leur avant-dernier album. Donc c'est vrai, oui, forcément, quand tu fais de la musique, même amateur comme ça, comme toi-même, parfois tu prends plaisir à acheter des albums de groupes obscurs qui ont sorti juste un disque il y a 30 ou 40 ans, voilà, qui a été réédité parce qu'il y avait, ouais, il y avait quelque chose, c'était pas le chef-d'œuvre, mais c'était un disque sympa, et toi tu l'achètes. Donc tu dis, oui, ce serait sympa de savoir que dans 10, 20, 30 ans, des gens achètent notre musique, mais ça... Je sais même pas si on sera encore là pour le voir, quoi. Donc, l'avenir le dira. tout simplement.
Eh bien, merci Stéphane pour ton témoignage.
Merci à toi Sylvain, merci beaucoup pour cette interview. Merci.
Eh bien écoute, c'était très intéressant. Longue vie à Barabbas et puis au plaisir de se croiser et pourquoi pas partager la même scène un jour.
Bah écoute, ce sera avec joie effectivement de travailler avec Monolith une fois, un ou deux, ou même plus d'ailleurs. Voilà. Pourquoi pas à l'avenir effectivement.
Merci Stéphane.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Ici s'achève cet entretien en compagnie de Stéphane, que je remercie pour sa participation. Et j'espère que si vous avez écouté ces deux épisodes sans nécessairement connaître Barabbas, l'envie d'écouter leur musique aura germé en vous. C'est pour ma part un groupe que je soutiens pour sa musique, pour son humilité, et puis pour l'absolue cohérence de leur proposition artistique à base de riffs lourds, de gros sons et de chants puissants français, qui nous rappellent que notre langue est tout à fait à sa place dans le métal. Merci de nous avoir écoutés, merci tout particulièrement aux auditeurs fidèles. N'oubliez pas de suivre le podcast sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon vent à tous, vous êtes dans le secret des dieux.